Mana Ono, salam. Je suis Simbak et vous écoutez actuellement le podcast Malabar. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter Maïe Rami Prod, qui a monté ce nouvel épisode. Entrepreneur basé en France, il est disponible pour vous accompagner dans tous vos projets vidéo et photo. Retrouvez ses contacts dans le lien de l'épisode. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la veine de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Alors pour suivre toute l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur malabar.fr ou à suivre notre Instagram. Et maintenant, je laisse place à ma conversation avec mon invité du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur Malabar. Aujourd'hui, je reçois Hussein, qui est le fondateur de Malakas. Alors, Malakas, c'est une entreprise qui fabrique de la farine sans gluten à partir de manioc. Oui, oui, vous avez bien entendu. Alors, pour en savoir un peu plus sur cette culture, dont je n'avais personnellement jamais entendu parler, je vous laisse écouter cet épisode avec Hussein. Bonne écoute. Bonjour Hussein, comment vas-tu ?
Bonjour, je vais très très bien, et toi ?
Oui, ça va très bien, merci. Alors, bienvenue sur Malabar, merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec moi. Donc nous, on s'est déjà parlé au tout début de Malabar, il y a 2 ans. Ton entreprise était sur le point de se lancer, et avec les aléas de la vie, on a mis un peu plus de temps à enregistrer cet épisode, mais aujourd'hui, on est là tous les deux pour parler de toi, de ton histoire, et bien sûr de Malakas. Donc avant ça, j'aimerais bien d'abord que tu te présentes aux auditeurs, nous dire ton prénom, ce que tu fais dans la vie et d'où tu viens.
Écoute, Simbach, merci beaucoup. Merci de m'inviter pour cette émission. Je suis super content d'avoir enfin trouvé un créneau pour qu'on puisse échanger autour des sujets qui nous passionnent à tous les deux. Le retour à notre pays. Alors moi je suis Hussein, je suis originaire de Tuléar en fait. J'ai grandi à Tuléar, j'ai fait mon lycée à Tana et après le lycée, comme un bon nombre de jeunes de notre pays, je suis parti en France pour faire mes études. Et ensuite, j'ai trouvé une opportunité en France. J'ai travaillé pendant 7 ans chez BNP Paribas dans le monde de la finance, où j'ai pu accompagner des entreprises en fait. J'ai pu accompagner financièrement des entreprises. Il y a 4 ans, il y a 5 ans maintenant, en 2019, je me suis dit qu'il fallait revenir au pays et j'ai tout arrêté en France. Pour revenir au pays, de faire le pas pour essayer de créer de l'impact à Madagascar.
D'accord, très bien. Donc, pour revenir un peu à ton expérience en France, donc tu disais, tu as d'abord fait une grande partie de ton adolescence et le début de ta jeunesse à Mada, puis ensuite tu es venu en France. Est-ce que tu pourrais nous résumer en quelques mots, en quelques idées, ce que tu as appris la France, ce que tu as retenu de ton expérience, comment aujourd'hui, avec le recul, comment tu vois un peu la valeur ajoutée de cette expérience en France ?
Alors, la France, je dirais toujours, ça a été pour moi la plus grande expérience de ma vie. La France, pour moi, ça a été une école de vie. La France, pour moi, restera toujours ma terre, la terre qui m'a accueilli et qui m'a vu grandir, où j'ai pu apprendre la vie, en fait, à Madagascar. On est un peu bercé dans le monde familial, dans le cocon familial où tout est permis entre guillemets. Et après le bac, j'ai découvert en France, j'ai découvert la France en fait, hein, qui était un pays tout nouveau pour moi. Et j'ai découvert en fait cette égalité où tout le monde, tous les étudiants étaient vraiment égaux. Lors de mes études, j'ai appris à vivre seul, j'ai appris à étudier tout seul, j'ai appris à vivre tout seul en fait, tout simplement, et être mature. J'étais dans un âge où je commençais à devenir mature, et en France en fait, ça m'a vraiment permis d'apprendre tout ça. Ensuite, après mes études, j'ai fait une étude école de commerce. J'ai fait une école de commerce, pardon. Et après, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu l'opportunité de travailler chez BNP Paribas en banque. BNP Paribas m'a vraiment forgé, m'a appris à devenir professionnel, m'a appris à avoir une expérience vraiment professionnelle, c'est-à-dire à être en contact de la clientèle, à vraiment, voilà, ce côté professionnel, c'est BNP Paribas qui m'a aujourd'hui appris. Et aujourd'hui, je suis fier de dire à tout le monde, grâce à mon travail chez BNP Paribas, je suis aujourd'hui, quand je suis revenu à Madagascar, je me sens plus fort, je me sens acquis d'une expérience que personne d'autre pourrait avoir, quoi.
D'accord. Donc, c'est une expérience vraiment riche. Je pense que c'est important de le souligner parce que, bon, après, chacun a son expérience à l'étranger, bien sûr, mais parfois, on se permet un peu de dénigrer ou de cracher sur un pays dans lequel on a vécu parce qu'il y a toujours des avantages, des inconvénients, des choses qu'on aime moins. Mais je pense
Bien
que c'est
sûr.
important aussi de prendre conscience qu'une expérience, c'est toujours enrichissant. Et donc, c'est pour ça que je te posais la question. Donc, tu rentres à Madagascar. Donc, tu disais que tu voulais créer une société à impact. Déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu entends par là et nous expliquer un peu le processus de création de Malakas ensuite?
OK. Alors en fait, donc du coup, en France, c'est toujours, et c'est très très important de le dire, c'est qu'en fait un retour se prépare. En fait, quand je vous ai dit j'ai décidé de tout arrêter et revenir, ça n'a pas été aussi simple que ça. Ça veut dire que depuis 4 5 ans, je me préparais en fait au retour au pays, et je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire au pays, en quoi je pourrais être utile à Madagascar, en quoi je pourrais être utile quand je vais revenir chez moi à Madagascar. Comment toutes les expériences que je suis en train d'acquérir sera utile pour moi demain quand je serai de retour à Madagascar. Donc tout ce travail a été fait dans la tête, psychologiquement, et un jour, un beau jour, je me suis dit, ça y est, c'est le bon moment, je saute le pas, j'arrête tout, je démissionne, et c'est de là qu'est venu, c'est tout le travail qui a été fait dans ma tête qui m'a permis de prendre d'avoir ce déclic. Ensuite, je voulais, voilà, tout ce travail dans ma tête m'a permis de me dire, OK, je vais créer une société dans l'agribusiness à Madagascar, dans l'agroalimentaire, parce que l'agribusiness, c'est un grand mot. Dans l'agroalimentaire, je me dis, mais tiens, nous sommes un grand pays, nous avons un terroir, nous avons une diversité, nous avons tout ça à vraiment développer. Et pourquoi je me lancerais pas là-dedans? Alors à Tulliard, on m'appelait même au boulot parce que je commençais à en parler. Les derniers mois, je commençais à en parler de mon retour parce que c'était devenu très imminent. Hein. Même si je ne connaissais pas la date ou je ne savais pas quand est-ce que j'allais sauter, je commençais à en parler. Ben tiens, un jour quand je vais revenir chez moi, je veux créer une usine de transformation de mangue parce qu'à Tulliard, quand je venais en vacances, je savais qu'il y a beaucoup de mangues à Tulliard, et on m'a appelé même Monsieur Mango chez BNP Paribas. Et en fait, et du coup, en fait, je suis revenu ici et à l'idée de se dire, OK, je vais valoriser le terroir de ma ville, de ma région, qui est Tulliard, parce que quand je suis arrivé à Tulliard, tout le monde me disait, mais tiens, un Parisien qui a été, mais vraiment, hein, je vivais vraiment à la parisienne quand j'étais à Paris, sans me lancer des fleurs. On me dit, mais un Parisien, après avoir fait 12 ans en France, Tulliard, ça va être un gros choc pour toi. Mon pote, je te conseille de vivre à Tana parce que tu vas très très vite descendre très bas, parce que Tulliard, ça va être un gros choc pour toi mentalement. Je dis, non, non, je veux rester dans ma ville, je veux développer ma ville, je ne veux pas aller dans une autre ville de Madagascar. C'est ma ville que je souhaite développer. Et là, je commençais à faire des recherches sur, bon, la mangue, la mangue, la mangue. Finalement, en fait, je me suis dit que la mangue, c'était beaucoup d'investissements financiers, beaucoup d'investissements techniques où il fallait s'y connaître en technique de froid, etc. Et je me suis dit, bon, ça semble un peu compliqué. Je vais me lancer dans un autre produit. Qu'est-ce qui existe avec mon frère, on parle du manioc. Et mon frère me dit, mais tiens, Houssen, tu sais que le manioc en Afrique se transforme très très bien. Alors moi, de la mangue au manioc, limite, je m'engueule avec mon frère, quoi. Je dis, mais arrête, arrête, Murtaza, arrête de me raconter ça. Je suis en train de vous dire que je vais faire un beau projet dans la mangue. Et qu'est-ce que tu me parles de manioc, quoi? Et en rentrant, en fait, dans ma chambre, je me suis dit, mais tiens, peut-être qu'il m'a dit quelque chose qui était bon. Et je commence à faire des recherches sur le manioc. Je savais qu'il en poussait énormément dans ma ville où on voit ces agriculteurs, quand ils n'arrivent pas à vendre leur manioc, ils étalent au bord de la route. Et en fait, c'est du manioc qu'ils n'arrivent pas à vendre. C'est du manioc frais qu'ils n'arrivent pas à vendre, qu'ils essaient de sécher. Et ensuite, le manioc séché qui est valorisé. Donc bon, et là, je me suis dit, ben, tiens, waouh, tout ce qu'on peut faire avec le manioc, vas-y, je me lance dans le manioc. Et c'est comme ça qu'est arrivée cette idée de transformation de manioc. Et tu me demandais tout à l'heure, Sam, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, impact? Impact, ben, pour résumer, c'est tout ce que je t'ai dit, c'est-à-dire je veux retourner dans ma ville, dans ma région. Je veux transformer un produit qui pousse dans ma région. Je veux créer de la valeur dans ma région. Je veux créer des emplois dans ma région. Je veux valoriser le terroir de ma région, tout en préservant en fait une biodiversité. Voilà pour moi ce que ça veut dire l'impact en fait. Et j'entends par impact aussi ce retour au pays d'un jeune qui a fait ses études, qui a travaillé dans un autre pays, il revient dans son pays, qui est Madagascar, qui a besoin d'être développé. Tout ça, pour moi, c'est de l'impact.
Et donc, quand tu es arrivé à Tuléar, je me demandais, parce que généralement, on parle beaucoup du retour, comme tu le disais, comment tu as été accueilli pas que par ta famille, mais globalement, est-ce que c'était un peu, c'était bien vu que tu sois de retour? Est-ce que les gens étaient surpris, mais dans le mauvais sens, dans le bon sens? Enfin, voilà, parle-nous un peu de la réaction.
Comme je t'ai dit tout à l'heure, Sam, les gens étaient surpris dans le bon sens d'un côté, mais en fait, à Madagascar, ça, c'est un peu je pense, la philosophie de tout le monde, c'est que, bon, quand quelqu'un revient, il y a toujours ce côté moqueur, tu vois. Moi, je l'ai senti un peu comme ça, tu vois. Tiens, l'autre, il est revenu. Déjà, les gens, ils comprennent pas. Tu sais, ici, il y a beaucoup de paroles, voilà, mais tiens, pourquoi est revenu? Peut-être que ça n'a pas marché
C'est ça.
là-bas.
Est-ce que c'était vu comme un échec? Parce qu'il
Ah
y en
oui,
a, ça
bien
peut être
sûr.
ça. Voilà.
Ah, bien sûr,
D'accord.
bien sûr. Je l'ai vu, je l'ai senti un peu, hein. Ah, ouais, peut-être que ça n'a pas marché là-bas. Tiens, le fils d'un tel est revenu. Surtout à Tuléar, hein. Je ne sais pas comment ça se passe à Tana, mais surtout en province où tout le monde se connaît, tout le monde connaît la famille. Ah, mais tiens, le fils d'un tel est revenu. Ah là là, ça n'a pas du tout marché là-bas. Et en fait, petit à petit, et y en a qui le prenaient très bien. Il y en a qui prenaient dans le sens d'un patriote, d'un jeune patriotique qui est revenu au pays pour développer. Mais ça faisait un peu, voilà, c'était juste l'élite. Allez, on va dire une dizaine de personnes, une poignée de personnes qui disaient, ben tiens, bravo, bravo, toi t'es revenu, tu as fait le pas. Voilà, il y a une petite partie qui dit ça, et il faut pas l'entendre, il faut pas l'oublier. C'est que je ne suis pas le seul qui est revenu, hein. On commence à créer une équipe, hein. On est tous solidaires. Aujourd'hui, on se reconnaît. Aujourd'hui, on se motive. Et moi, j'ai rejoint ce rang-là. Et il y a aussi cette troisième catégorie des gens qui dit, ah, tiens, il y a un autre qui vient dans notre panier, qui commence à grandir petit à petit. Bravo à toi. J'espère que toi aussi, comme nous, tu pourras réussir. Parce que ces gens qui sont revenus, ben aujourd'hui, on peut voir, hein, ils sont à la tête de grandes entreprises à Madagascar. Ils sont des hommes, des ministres, hein, qui sont très bien. Voilà. Aujourd'hui, en fait, on voit que tous ces gens qui reviennent avec un projet derrière, avec une ambition, ils réussissent forcément. Donc voilà, il y a ces trois catégories. Et à toi ensuite de te dire, bon, allez. Qu'est-ce que tu prends de cette catégorie? Qu'est-ce que tu prends de cette catégorie pour commencer à te forger dans le pays et commencer à avoir ton propre ta propre idée, quoi.
D'accord, très bien.
Donc, pour revenir un peu à Malakas, donc toi, tu fais de la farine à partir de manioc. Alors, pour simplifier un peu le process, parce que j'imagine que c'est quelque chose de compliqué ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas, je ne m'y connais pas, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais concrètement? Quel est le processus à faire pour partir d'un manioc pour en faire de la farine sans gluten?
D'accord. En fait, comme je t'ai dit, simple. Alors le malakas. Déjà, je souhaiterais expliquer malakas. Malakas, ça veut dire. Je voulais que le nom de la société que je suis en train de fonder à Madagascar ait une résonance patriotique. On dit malagas. On nous appelle maintenant les malagas. Donc, du coup, en fait, je voulais avec mon ami. Qui m'a aidé à trouver ce nom, qui m'a aidé à faire ce logo. D'ailleurs, je le remercierai toujours parce qu'on a vraiment réussi. Il a réussi à me comprendre. Je voulais que ça sonne vraiment patriotique. Donc, Mala de Malagas et Cas de Cassava. Cassava qui veut dire manioc en langage international, en anglais. Donc, en fait, voilà. Demain, Malakas veut devenir la fierté du manioc, la fierté de Madagascar dans le manioc, dans la transformation agricole. Ensuite, du manioc qui est considéré comme un produit de pauvre, un produit qui pousse partout, en faire de la farine sans gluten, ouais, ça a été un gros challenge. C'est un gros challenge à Madagascar parce que je suis en train de faire beaucoup de pédagogie pour dire à la population, pour vulgariser ce produit, pour dire oui, avec ce manioc, on arrive à faire de la farine, de la vraie farine, hein. C'est pas de la poudre de manioc, on arrive à faire de la vraie farine. Chez Malakas, on a un processus industriel à 6 étapes, c'est-à-dire qu'on transforme le manioc frais qu'on collecte auprès de nos agriculteurs partenaires, c'est-à-dire qu'on a mis pratiquement 2 ans à recenser des agriculteurs qui adhèrent à notre vision, qui adhèrent à notre façon de travailler. Donc, on a des agriculteurs partenaires chez qui on va chercher tous les jours du manioc frais. Et le manioc frais qui est récolté le jour, le matin, est transformé le jour J et ensuite transformé en farine de manioc de haute qualité, comme on appelle ça, parce qu'il y a tout un processus industriel en 6 étapes. Je ne vais pas te dire toutes les 6 étapes parce que ça serait beaucoup trop lent et ça serait vraiment une émission technique. Mais il y a vraiment une étape industrielle à 6 étapes qui fait qu'on obtient de la farine de haute qualité, une farine qui est super fine, avec ce manioc qu'on récolte tous les jours auprès de nos paysans partenaires.
Et est-ce que tu as des usages spécifiques de cette farine? Ou alors tu peux l'utiliser pour faire tout et n'importe quoi, comme ce que tu fais avec la farine de blé, c'est-à-dire des gâteaux, du pain, etc.
Tout à fait, oui. En fait, pour te dire qu'en Afrique, dans certains pays africains comme le Nigeria, j'ai été au Rwanda en janvier, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, le manioc est vraiment le produit phare. Ici, on parle encore de riz à Madagascar, mais dans ces pays que je viens de citer, le manioc fait partie du PIB du pays, en fait, tellement ce produit est transformé et tellement ce produit a tellement de vertus. Et en fait, bien sûr, ce produit, cette farine, hein, cette transformation qui est la farine chez nous pour le moment, hein, est vraiment une farine qui est utilisée partout. C'est une farine juste qui est sans gluten parce que on ne fait pas une transformation pour que ça devienne sans gluten. Hein. C'est que le produit, le manioc, l'amidon est sans gluten. Voilà, c'est naturellement sans gluten. Et en fait, voilà, c'est une farine qui est sans gluten, qui se rapproche le plus à la farine de blé. C'est-à-dire que, tu sais, dans la famille du sans gluten, il y a vraiment une vingtaine de farines, mais chacun a ses spécificités. Tu vas utiliser la farine de riz qui est sans gluten pour faire des produits. Tu vas utiliser la farine de pois chiche. Tu vas utiliser la farine de sarrasin, mais que pour des produits spécifiques, tu vois. Alors que la farine de manioc, c'est la farine sans gluten qui ressemble le plus à la farine de blé, par sa couleur, par son goût, par tout ce que tu veux, et on peut vraiment tout faire avec, sauf le pain, bien sûr, mais avec aucune farine sans gluten, tu peux faire du pain. Donc voilà.
D'accord.
Tu peux vraiment tout faire avec la farine de manioc.
Et ça a des avantages nutritionnels ou pas?
Ça a des avantages, je veux dire, pas nutritionnels par rapport aux autres farines et à
D'accord.
la farine de blé, mais ça a des valeurs énergétiques. C'est une farine qui a beaucoup d'énergie, c'est un produit qui a beaucoup d'énergie. Et ensuite, c'est une farine qui va te donner, par son produit, par le manioc, l'effet de satiété. Ça veut dire que tu vas manger une tranche de cake qui te paraît très léger parce que c'est une farine sans gluten, c'est une farine super légère. Tu vas manger une tranche de cake. Et tu seras, t'as l'impression d'avoir mangé tout le cake entier. Voilà. C'est un produit qui donne un effet de satiété qui est vraiment extraordinaire. C'est pour ça qu'en Afrique, ils donnent ça à des enfants. En Afrique, ils mélangent même ça à des farines, à d'autres farines nutritionnelles qui donnent beaucoup plus de nutriments, pour qu'il y ait cet effet de satiété et qu'il y ait cette énergie dans ce produit-là.
D'accord. Maintenant, j'aimerais aborder un autre sujet dont tu parlais tout à l'heure quand tu disais que tu voulais rentrer aussi à Tulare parce que c'est ta ville et que tu voulais apporter quelque chose. Enfin, en tout cas, je le redis dans mes mots, mais apporter de la valeur. En général, quand on pense à de la valeur, on pense aussi à l'humain. Ce que j'aime bien aussi chez Malabar, c'est mettre en avant le fait que voilà, ce sont des Malgaches qui sont revenus au pays et qui emploient des Malgaches, parce qu'on entend souvent que c'est rare d'avoir des employeurs malgaches. Est-ce que toi, à travers de Malakas, tu as eu l'impression, ou tu as l'impression, ou en tout cas tu envisages d'avoir cette vision-là qui est de faire travailler les Malgaches, de grandir avec les Malgaches et de les éduquer un peu sur ces nouveaux produits, ces nouvelles façons de travailler.
Bien sûr, hein, c'est l'ambition de nous tous, Sambatch, de faire vraiment travailler que des Malgaches, parce que nous-mêmes, nous sommes contre la fuite de cerveau, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'on aille. Bon, je suis pas non plus. Je suis pas contre le fait qu'on aille voyager, qu'on aille travailler ailleurs, etc., qu'on aille faire une autre vie ailleurs. Mais en fait, aujourd'hui, je suis pour qu'on ait des ingénieurs malgaches, qu'on ait des techniciens malgaches. Les malgaches ne sont pas faits que pour des petits métiers. Aujourd'hui, en fait, on est reconnu, hein, dans le domaine de l'informatique où des malgaches. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un ami, mais tiens, tu sais que tous nos ingénieurs en informatique, ils sont recrutés au Canada, ils sont recrutés en Inde parce qu'on a une telle capacité, en fait, on a une capacité, les Malgaches, on est des gens très très intelligents. Et voilà, quand on étudie, quand il y a des universités qui forment bien, on arrive. Mais à l'échelle de Houssen, à l'échelle de Malakas, ça va être compliqué de très vite résoudre cette équation. Il faut partir de la base, c'est-à-dire qu'à Tulare, aujourd'hui, il n'y a même pas d'université technique qui forme les jeunes dans tout ce qui est métier de l'agriculture, des métiers de l'ingénierie, dans la transformation alimentaire. Donc, on est obligé de faire venir des gens de l'extérieur. On est dans l'obligation parce qu'il faut aussi créer des projets en parallèle. Il faut aussi développer le pays. On va pas attendre de créer des écoles, mais en parallèle, il faut créer des écoles. Il faut éduquer nos jeunes parce que, quand je vois l'université de Tulare, qui est la troisième plus grande université du pays, l'université de Tulare, et je suis désolé de le dire, et oui, je vais le dire dans cette émission, cette université n'a même pas de formation technique en agriculture, alors que Tulare est vraiment un berceau aussi dans l'agriculture. Ouais, il y a des géographes, ils font de la géographie de je sais pas quel pays. Tu as des historiens, tu peux trouver des historiens, tu peux trouver des psychologues, tu peux trouver des gens qui ont fait de la philo, bac plus 12 en philo. Mais non, il y a un moment donné où il faut aller à l'essentiel, il faut créer des écoles de formation technique, il faut vraiment créer ce genre de choses ici à Madagascar, parce que c'est de ça qu'on a besoin si on veut vraiment créer de l'emploi dans notre pays, quoi.
Donc toi, tu te rends compte en ayant fondé Malakas, donc qui est dans le secteur de l'agroalimentaire, qu'il y a
Bien
y a
sûr.
des manques. Même
Bien
toi,
sûr,
tu le vois en fait.
j'ai plus de 50% qui viennent d'autres pays, d'autres villes, en fait, hein. Et malheureusement, je peux pas employer, j'ai pas d'ingénieur, J'ai pas d'ingénieur à Tulliard pour gérer mon, pas pour gérer, pour mon usine. J'ai pas de technicien formé à Tulliard pour gérer mon usine. J'ai pas de, voilà. J'ai aucune compétence à Tulliard qu'il me faut pour fonder une entreprise dans l'agribusiness. C'est un peu le paradoxe, mais j'espère qu'un jour, on va le comprendre.
Et tout à l'heure, tu disais que quand tu vivais en France, tu vivais comme un Parisien, donc on t'avait dit de venir à Tana. Là, tu es en train de dire que tu fais venir des gens à Tuléar. Je serais curieuse de savoir quels sont tes arguments pour les faire venir, d'où ils viennent et quel est leur ressenti. Et surtout, est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre quelqu'un qui vient de la capitale et quelqu'un qui s'installe à Tuléar?
Ah, alors oui, quelqu'un qui s'installe, tu l'as un peu considéré depuis ces derniers temps, ces 5-6 dernières années, est considéré comme une ville où il fait bon vivre, une ville où t'as les belles plages, une ville où il fait un climat paradisiaque. Donc en fait, voilà, aujourd'hui, tout le monde à Tana va envier Tulliard, tout le monde dans une autre ville va envier Tulliard. Mais le problème, le gros problème à Tulia reste, ah mais chez vous, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'entreprise. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire à Tulia? Pour les vacances, c'est bien, mais pour travailler, il n'y a rien chez vous. Voilà, aujourd'hui, on reste à ça. Et donc, comme argument hein, aux jeunes que je recrute chez Malakas, je leur donne ce confort d'abord. Je leur dis, écoutez, les jeunes, venez, c'est une belle entreprise, c'est une entreprise qui est sérieuse. Écoutez, je vais vous aider à trouver votre logement. Je vais vous aider à vous installer dans un logement. Venez avec votre famille. Regardez, Tulliard, il fait vraiment bon vivre. Tulliard, c'est pas le stress de la capitale. Tulliard, c'est pas le stress où il faut faire 3 heures de bus pour arriver au boulot, où il fait froid. Tulliard, il fait bon vivre. Tulliard est une ville où on peut vraiment tout faire. On est à 10 minutes de la plage, à 20 minutes de la plage. On a les montagnes à côté, on a vraiment tout à côté. C'est un cadre de vie qui est exceptionnel. Donc oui, c'est comme ça que j'essaie d'attirer les jeunes. Et aujourd'hui, j'ai deux cadres chez Malakas qui sont un de Fianarantsoa, un de Tana, la capitale. Et en fait, ils sont heureux, ils ont fait venir leur famille et ils ont ce cadre de vie qui est top. En plus, ils habitent à 5-10 minutes à vélo, à pied de l'usine. Ils sont vraiment bien en fait.
D'accord. J'avais une question. Où est-ce qu'on peut acheter tes produits? Est-ce que vous vendez ça en ligne? Est-ce que tu es présent qu'à Tuléar? Si moi, par exemple, j'habite Tana et que je veux acheter ta farine, où est-ce que je trouve les produits Malakas?
Alors là, les produits seront bientôt disponibles dans tous les supermarchés de la capitale, de tous les supermarchés du pays. On est en train de faire le travail, comme je t'ai dit, on est en plein lancement de la farine. Hein. On a même pas 1 an. On vient de sortir donc le produit 1 kilo pour le grand public, où vous allez tous pouvoir goûter cette farine de haute qualité qui sera disponible dans tous les supermarchés.
D'accord, super. Avant de terminer, Houssane, j'avais trois questions pour toi. La première, c'était une expression qui revient toujours à Madagascar et qui, selon toi, reflète le pays. Alors, ça peut être une expression que tu entends ou que toi, tu dis souvent. Laquelle ce serait?
Il y a tout à faire. C'est ça, cette expression, je l'entends souvent. Il y a tout à faire.
Et tu l'as prise au pied de la lettre.
Voilà.
Je
Je ne sais pas si tu attendais cette expression, mais vraiment, c'est celle que j'entends tout le temps et c'est celle que je dis souvent aussi. Donc, voilà.
D'accord. Ton endroit préféré à Madagascar?
Mon endroit préféré à Madagascar, je veux pas être corporate, hein, je veux pas dire au milieu des champs de manioc.
Ah,
Je vais
tu
dire, même si je me sens bien
peux.
avec mes agriculteurs quand je fais une réunion sous les pieds de manioc. Mon endroit préféré à Madagascar et ma plus belle ville, pardon, Tuléar, même si je t'adore, ma plus belle ville, ça a été une découverte pour moi, c'est la ville de Fort-Dauphin. L'océan, on voit l'océan, ce bruit des océans, ces montagnes, cette verdure. Pour moi, c'est la plus belle ville de Madagascar.
D'accord. Et tu y es allé il n'y a pas longtemps, c'est ça?
Ouais, je l'ai découvert l'année dernière et ça a été un gros, gros coup de cœur. Et
D'accord.
là, on a fait escale en avion parce que maintenant, il y a des vols directs pour Fort Dauphin. Et quand on est, et j'ai vu la première fois de l'avion, en fait, hein, mon Dieu, mais j'étais comme un gamin collé à son hublot, mais je prenais tellement plaisir à atterrir dans cette ville, quoi.
Ça donne envie. Ça donne envie.
Ah ouais, c'est magnifique.
Ton plat malgache favori?
Mon plat malgache favori, bon là, je vais être corporate parce que j'aime bien aussi quand ma mère le fait. C'est le raftoutou.
Le raftout de coco ou le raftout sans
Le
coco? Parce qu'il y a
raftou de
deux
coco,
écoles.
exactement. Coco, coco, coco.
Coco. D'accord.
Mais vraiment, j'adore ça et voilà, c'est mon plat préféré.
D'accord. Et pour terminer, est-ce que tu as quelque chose que tu veux partager, quelque chose qu'on a déjà abordé mais que tu veux redire, ou voilà, c'est ton moment libre, tu peux dire ce dont tu as envie de discuter.
Non, écoutez, encore une fois, hein, je suis heureux, moi, pour te dire, Simbad, que je suis heureux d'être à Madagascar aujourd'hui. On a un cadre de vie qui est juste exceptionnel, on a un pays qui est juste magnifique, on a un pays qui est attachant. Là, j'avais ma petite sœur qui était rentrée, elle est étudiante là-bas, elle est étudiante architecte, non, elle est architecte maintenant. Et en fait, on peut critiquer ce pays, on peut le critiquer dans tous les sens. Mais en fait, il y a des fois, on se dit, mais mince, mais qu'est-ce que ce pays est tellement attachant. Je pense qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui ressemble au nôtre. Certes, il y a encore plein de points à améliorer. Je dis que c'est des points à améliorer. Et justement, il faut un changement de mentalité. Et ton initiative aujourd'hui qui est en émission, mon initiative aujourd'hui qui est d'avoir créé une entreprise, et on est plein de jeunes à commencer à changer, à créer de l'impact dans notre pays. Et j'espère qu'on va dans le bon sens, et j'espère qu'un jour, nous tous, on va se dire, yes, on a réussi, on est en haut, on a réussi, et voilà, je tiens à le dire, et je tiens à le redire, et je le redirai tout le temps.
Super. Bah, merci beaucoup, Houssen, et on te souhaite une très bonne continuation avec Malakas.
Ça y est, l'épisode est terminé et merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur le site malabar.fr ou sur Instagram. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Malabar est toujours à la recherche d'expériences insolites. Alors si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même souhaitez partager votre histoire sur Malabar, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. À bientôt pour un nouvel épisode de Malabar.